présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La dernière offre de Boris Johnson ne convainc toujours pas l'Union européenne. On se dirige vers un Brexit sans accord au 31 octobre. Nous irons à Londres et à Bruxelles. Sylvie Goulard sur le grill. Les députés européens l'ont longuement interrogé sur ses démêlés judiciaires et sur des soupçons de conflit d'intérêts. Récit de Marie-Pierre Véraud. Marche de la colère des policiers. Ils se battent pour leurs conditions de travail et se plaignent d'être stigmatisés. Reportage d'Antoine Marette à Paris. Quelles sont les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen? Nous ne savons pas tout, reconnaît Édouard Philippe. Plus de 100 élus de Seine-et-Marne interpellent le Premier ministre. Nous sortirons de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Boris Johnson a martelé devant ses militants au congrès annuel du Parti conservateur à Manchester. Le Premier ministre britannique a présenté aujourd'hui sa dernière offre à Bruxelles en précisant bien que si elle était rejetée, il n'y aurait pas de nouveau report. Alors en quoi consiste cette ultime proposition, Antoine Gignot ?
Pour éviter d'avoir une frontière à reconstruire, Boris Johnson propose de donner temporairement à l'Irlande du Nord un statut spécial. Belfast resterait aligné jusqu'en 2025 sur les règles européennes. Les marchandises seraient contrôlées en mer d'Irlande et pourraient ensuite circuler librement du nord au sud de l'île grâce à des solutions technologiques invisibles et non intrusives. Et c'est là le principal défaut de ce plan. Ces solutions aujourd'hui restent à imaginer. Qu'importe, explique Boris Johnson, c'est une offre à prendre ou à laisser.
Si nous n'arrivons pas à conclure d'accord à cause d'une discussion technique sur les moyens qu'on doit utiliser pour faire des contrôles douaniers, alors que la technologie s'améliore de jour en jour, eh bien l'alternative, c'est une sortie sans accord. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Ce n'est pas du tout ce que nous cherchons. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, nous y sommes préparés.
En réaction, la CBI, la principale organisation patronale, s'affole. Une sortie de l'Union européenne sans accord serait un échec historique, lance la directrice générale. Elle appelle, comme les représentantes de la City of London, à éviter à tout prix un Brexit dur.
Antoine Gignot à Londres. Boris Johnson s'est entretenu au téléphone avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Mais pour les partenaires du Royaume-Uni, cette nouvelle offre britannique n'apporte pas grande chose de nouveau par rapport aux précédentes, Pierre Benazet.
Les Européens ne se prononcent pas encore sur le contenu précis de la proposition de Boris Johnson, mais leur scepticisme était latent avant même que le contenu formel en soit publié. Certains avaient déjà commencé à la descendre en flammes. La proposition du Royaume-Uni ne fonctionnera pas. L'offre finale présente des défauts fondamentaux. Ce qui risque de heurter le plus les Européens, c'est l'absence de durabilité de l'offre de Boris Johnson. Dans sa lettre à Jean-Claude Juncker, le Premier ministre britannique propose que les parlementaires et l'exécutif d'Irlande du Nord se prononcent avant l'entrée en vigueur du système, puis tous les 4 ans pour le renouveler. En revanche, l'offre finale du gouvernement britannique est plus acceptable que la première tentative, il y a un mois, sur les produits agricoles, car désormais, tous les biens et produits seraient concernés. Ça ressemble finalement à ce que l'Union européenne avait proposé comme filet de sécurité pour l'Irlande, avant même le début des négociations, à savoir une frontière en mer d'Irlande, ce qui, à l'époque, avait fait hurler les unionistes nord-irlandais du DUP, alliés de Theresa May. Mais c'est là que s'arrête la ressemblance, d'abord à cause de la limitation dans le temps, et surtout parce que Boris Johnson présente une forme tarabiscotée, où l'Irlande du Nord serait dans l'UE d'un point de vue réglementaire, mais pas dans l'Union douanière européenne. Il n'est en revanche question nulle part d'une autre grande préoccupation des Européens, à savoir les garanties pour les droits des citoyens. Cette offre britannique, à prendre ou à laisser, risque de diviser les Européens entre les tenants de la fermeté envers Londres et les partisans d'un nouvel accord destiné à éviter la catastrophe d'un Brexit abrupt.
Après avoir retoqué 2 commissaires pour des conflits d'intérêts présumés, les parlementaires européens ont auditionné la Française Sylvie Goulard cet après-midi. Leur feu vert est indispensable pour qu'elle soit définitivement nommée au portefeuille du marché intérieur au sein du futur exécutif européen. Mais elle a 2 handicaps, les enquêtes dont elle fait l'objet pour l'affaire des emplois présumés fictifs des eurodéputés Modem et son rôle de conseillère pour un think tank américain pendant son mandat d'eurodéputée. Sylvie Goulard s'est défendue de toute irrégularité, Marie-Pierre Véraud.
Elle savait que ce serait compliqué, Sylvie Goulard. Elle était prévenue que l'affaire des emplois présumés fictifs du Modem, qui lui a coûté son poste de ministre de la Défense, agitait les députés. Et c'est le premier, le français François-Xavier Bellamy, qui a ouvert les hostilités sur le sujet.
Comment comprendre que ce qui vous a écarté du gouvernement en France ne vous empêche pas d'exercer, avec la sérénité et l'indépendance requises, des fonctions de commissaire ?
J'ai été entendue par la justice française et je ne suis pas mise en examen. Je vous le demande à tous, un respect très grand de la présomption d'innocence.
I'm clean, finit-elle même par s'exclamer en anglais, je suis propre, mais elle reste toutefois fébrile, chahutée par une députée Rassemblement National.
J'avoue être un peu surprise de vous voir ici, madame. Madame, combien de Français gagnent 13 000 euros par mois pour passer des coups de fil ?
Madame la députée, on ne peut pas jeter la suspicion sur les gens sans apporter de preuves. Je peux travailler dans 4 langues, et si des personnes privées ont estimé que ça méritait rémunération, je pense que la liberté d'entreprendre doit être défendue, comme la présomption d'innocence, madame la députée. Merci.
Émue par moments, elle concède que les sommes peuvent paraître élevées, mais demande aux députés de la juger sur son parcours et pas simplement ses erreurs. Wir schaffen das, nous allons y arriver, a-t-elle espéré, citant Angela Merkel. Sylvie Goulard qui a tout de même été applaudie à l'issue de ce grand oral.
Marie-Pierre Véraud, c'est le plus gros dossier géré par l'OMC. Boeing et Airbus se reprochent mutuellement de profiter de subventions. Le litige dure depuis 15 ans. Aujourd'hui, un point en faveur des États-Unis. L'Organisation mondiale du commerce les autorise à appliquer d'importants droits de douane sur les produits européens, Annabelle Grelier.
Oui, dans sa décision, l'OMC a reconnu que les prêts publics préférentiels accordés à Airbus pour la réalisation de l'A350 et de l'A380 ont bien causé un préjudice pour les États-Unis, évalué à 7,5 milliards de dollars. Washington peut donc désormais appliquer des droits de douane sur les produits européens à la même hauteur. La liste établie par les autorités américaines concerne les appareils Airbus, mais aussi des produits très divers comme le vin, le saumon, l'huile d'olive ou encore le fromage et la maroquinerie. Du côté des réactions, Airbus, dans un communiqué, dit avoir pris acte de la décision de l'OMC tout en espérant que les États-Unis et l'Union européenne accepteront de trouver une solution négociée, a déclaré Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, qui rappelle que l'affaire pourrait déstabiliser le commerce mondial. Ce serait une erreur économique et politique pour le ministre de l'économie française, Bruno Le Maire, qui appelle à la désescalade, car en effet, en parallèle de l'affaire Airbus, il y a l'affaire Boeing, dont la décision de l'OMC est attendue en début d'année prochaine. C'est exactement le même dossier. Les droits de douane porteraient sur 12 milliards de dollars réclamés par l'Union européenne. Donc Bruxelles souhaite une négociation à l'amiable, mais a d'ores et déjà menacé de riposter dès le printemps prochain. La balle est pour le moment dans le camp des Américains. Bref, ce vieux différend pourrait déclencher un véritable tsunami dans le commerce mondial. Et Donald Trump n'a à ce jour montré aucune sagesse en la matière.
Annabelle Grelier. Depuis le début de la semaine, 3 manifestants étaient morts à Bagdad, mais aujourd'hui, les forces de l'ordre irakiennes ont à nouveau tiré à balles réelles pour disperser les protestataires. Et il y a eu 2 nouvelles victimes, cette fois à Nasiriyah, à 300 km au sud de la capitale. Les revendications des manifestants sont variées, demande d'emploi et de meilleurs services publics, lutte contre la corruption ou encore le refus de la mise à l'écart d'un général populaire. La Commission des droits de l'homme au Parlement dénonce aujourd'hui une répression dont les responsables devront rendre des comptes. La situation sécuritaire continue de s'aggraver au Mali. En témoigne l'attaque de 2 camps militaires maliens par des djihadistes dans la nuit de lundi à mardi près du Burkina Faso. 2 jours d'intenses batailles se sont soldés par la mort d'au moins 25 soldats maliens et près de 80 soldats sont portés disparus. C'est l'une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années. La correspondance de Christelle Pierre à Bamako.
Les opérations de ratissage de l'armée malienne continuent aux alentours de Boulkessi, conjointement avec l'armée burkinabé et la force française Barkhane. Objectif, retrouver les assaillants, mais aussi les quelques 80 soldats maliens portés disparus, dont on ne sait pas s'ils sont partis se cacher, s'ils ont été tués ou faits prisonniers. L'armée malienne espère aussi retrouver du matériel volé ou au pire le détruire, car, comme à leurs habitudes, les assaillants ont attaqué à l'aube lundi matin pour notamment s'approvisionner en véhicules, en armes et en munitions. Sur place, ils ont aussi incendié des camions et des pick-up et quasiment toute la base. Les renforts maliens n'ont pu arriver sur place que mardi soir pour reprendre le contrôle du camp. Cette attaque est un énorme revers pour la force conjointe du G5 Sahel dont la base de Boulkessi dépend. Car c'est le plus lourd bilan depuis sa création en 2017, alors même que cette force peine à exister sur le terrain. C'est aussi un coup dur pour l'armée malienne dont les soldats n'arrivent toujours pas à faire face aux attaques. Ils sont encore une fois soupçonnés d'avoir abandonné leur position face aux assaillants. Ceux-ci n'ont pas encore revendiqué l'attaque, mais plusieurs groupes djihadistes sont présents dans cette zone de trafic affiliés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. Et même si la force française Barkhane s'est rapprochée de cette zone en s'installant à Gossi au printemps dernier, ces groupes radicaux démontrent toujours leur grande capacité de manœuvre.
Une pierre commémorative à la mémoire de Jamal Khashoggi a été inaugurée devant le consulat saoudien à Istanbul. La cérémonie a été organisée pour marquer le premier anniversaire de l'assassinat du journaliste saoudien par une équipe d'agents venus de Riyad. Depuis le début de l'affaire, les autorités turques dénoncent un crime prémédité, mais le pouvoir saoudien nie avoir donné l'ordre d'assassiner le journaliste. Des proches de Jamal Khashoggi et des représentants d'ONG de défense des droits de l'homme se sont donc rassemblés devant le consulat pour réclamer justice. Le reportage d'Anne Andlauer à Istanbul.
Un moment de non-silence pour Jamal Khashoggi, lui que ses meurtriers ont fait taire. C'est l'intitulé de cette cérémonie organisée à moins de 20 mètres du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Sur la petite scène blanche, les orateurs se succèdent pour rendre hommage aux journalistes. Parmi eux, Agnès Kalama, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. Elle a enquêté pendant des mois sur l'affaire et mis en cause la responsabilité individuelle de hauts responsables saoudiens, y compris du prince héritier Mohamed Ben Salman. Agnès Kalama réclame une enquête pénale internationale, en vain pour l'instant.
Right now, governments are afraid. They are cowards. They are not moving forward with accountability.
À l'heure actuelle, les gouvernements ont peur, ils sont lâches, ils ne réclament pas la transparence. Nous devons les pousser, nous devons pousser l'Union européenne. À moyen terme, nous devons reconnaître que la communauté internationale n'a pas les instruments pour répondre à ce genre de crise. Nous avons besoin de plus d'instruments pour protéger les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme. Nous avons besoin d'un mécanisme d'enquête international au sein même des Nations Unies qui pourrait s'auto-saisir pour enquêter sur ces crimes ciblés, y compris sur un plan criminel. Et nous devons continuer de réclamer la vérité sur qui a ordonné, qui a incité, qui a bénéficié de l'assassinat de M. Khashoggi pour qu'il soit puni aux yeux de l'opinion publique internationale, y compris par l'intermédiaire de sanctions.
À la fin de la cérémonie, les participants inaugurent une pierre à la mémoire du journaliste. On y lit son nom, sa date de naissance et de mort, comme sur une pierre tombale. Les restes de Jamal Khashoggi n'ont toujours pas été retrouvés.
« 52 suicides depuis le début de l'année. Les policiers expriment de plus en plus ouvertement leur mal-être. Ils étaient environ 22 000 à manifester cet après-midi à Paris, selon leur syndicat, rassemblés pour une marche de la colère de la Bastille à la place de la République. Et au cœur de leurs revendications, leurs conditions de travail et leur régime de retraite, Antoine Marette. »
Des sifflets pour exprimer la colère des 27 000 manifestants selon les organisateurs venus de toute la France. Côte à côte, pour la première fois depuis 20 ans, les syndicats affichent leur ras-le-bol. Michael Tréhin est le secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police.
La population, on aimerait bien qu'elle nous soutienne. On le sait que la population globalement aime sa police, à part quelques-uns qui nous empêchent d'avoir nos week-ends depuis près d'un an. Pour le reste, le gouvernement, c'est comme les précédents, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir droit à de belles paroles. Maintenant, on attend que ça soit réellement traduit dans les actes, ce qui n'est pas le cas actuellement. On attend surtout, plus haut que le gouvernement, on attend que le président Macron entende vraiment cet appel d'une police qui est en ce moment victime d'un profond malaise.
Un malaise concrétisé par un chiffre. Depuis le début de l'année, 52 policiers ont mis fin à leur jour. Ils sont salués par une minute de silence dans le cortège. Stanislas Godon est le porte-parole d'Alliance.
Il faut qu'il y ait un projet ambitieux pour la police nationale, pour son organisation, et il faut rétablir aussi l'autorité de l'État. Parce que depuis trop longtemps, il y a notamment une autorité qui est bafouée, une autorité qui est parfois injuriée, attaquée, agressée, jusqu'à des cocktails Molotov notamment.
Qu'est-ce qui se passe là ?
Oui, c'est Monsieur Gaspard Glantz qui essaye en fait tout simplement de perturber une manifestation. Mais bon.
C'est son métier là, il essaie de prendre des images.
Oui, oui, tout le monde le connaît. Maintenant, ça aussi, ça fait partie des choses qu'il va falloir aussi régler. C'est ceux qui perturbent notamment un droit constitutionnel, le droit de manifester.
Gaspard Glantz, journaliste indépendant, est finalement exfiltré de la manifestation par les gendarmes et interpellé. Une dizaine de gilets jaunes sont également écartés du cortège. Parmi eux, Nedjeh, venu protester contre les violences policières.
On ne nous donne plus le droit de manifester librement. On voit très bien dans les manifestations gilets jaunes comment on est encadré par la police. C'est plutôt eux qui créent des ordres.
Au slogan « Tout le monde déteste la police », scandé par les gilets jaunes, les policiers ont répondu par une Marseillaise.
Antoine Marette, police, le malaise est-il structurel ou conjoncturel ? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses invités dans le temps du débat à 18h20. Eux aussi incarnent l'autorité et à ce titre, eux aussi sont exposés à des risques. Les élus municipaux se plaignent d'incivilités, injures, menaces, agressions physiques. Après la mort du maire de Signes dans le Var, le Sénat avait lancé une consultation dont il vient de dévoiler les résultats. Près de 4000 élus ont répondu et 92% d'entre eux disent avoir été victimes de violences, Rosalie Lafarge.
Oui, des élus menacés de mort, giflés, attaqués au couteau ou à la hache, qui se font foncer dessus par un tracteur, sont insultés, leur domicile tagué, les exemples sont multiples. La réalité du phénomène est incontestable pour Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat.
Le drame de Signes n'est pas isolé, même si là il y a eu mort d'homme. Dans d'autres cas, il y a eu des blessures, 6 mois d'hôpital parfois, des maires qui se retrouvent sur le capot d'une voiture sur 40 ou 50 mètres, des maires qui disent pour 16% d'entre eux qu'on s'en prend à leur famille. Au fond, ce questionnaire, c'est une sorte de cri d'alarme.
Les maires se sentent seuls face à des violences de plus en plus fréquentes. Ils osent rarement porter plainte et quand ils le font, ils sont déçus puisque 20% des plaintes seulement aboutissent à une condamnation. Il y a donc urgence à agir pour le sénateur LR.
Il faut une hotline dans les préfectures pour que les maires puissent tout de suite avoir quelqu'un qui vient les aider au niveau préfectoral. Il faut que le garde des Sceaux demande qu'on applique des peines sévères quand on s'en prend aux maires. Il faut que les maires entendent que leur inquiétude est fortement prise en compte et qu'un coup d'arrêt va être donné à leur exposition au risque d'insécurité.
La commission des lois du Sénat formule 12 propositions pour accompagner et protéger les maires. La moitié sera introduite dans le projet de loi Engagement et Proximité qui doit être débattu la semaine prochaine. Les autres ont été transmises par courrier au gouvernement.
Rosalie Lafarge, une mission d'information parlementaire sur l'usine Lubrizol va être créée à l'Assemblée nationale et au Sénat, une commission d'enquête transpartisane devrait être rapidement mise en place. 6 jours après l'incendie de cette usine classée Seveso à Rouen, on sait que plus de 5000 tonnes de produits chimiques ont brûlé et l'on connaît maintenant la liste de ces produits, ce qui n'a pas particulièrement rassuré les habitants. La communication gouvernementale est vivement critiquée. L'exécutif s'efforce de se rattraper avec notamment la mise en place d'un numéro vert pour répondre aux questions des personnes inquiètes. Les pouvoirs publics ne savent pas tout, reconnaît Édouard Philippe. Devant le Sénat, lors des questions d'actualité au gouvernement, il a rappelé que les analyses étaient encore en cours. Tous les prélèvements dans l'air dont nous disposons à cette heure, assure le Premier ministre, font apparaître un état habituel de la qualité de l'air. Mais ces paroles ne sont pas encore suffisantes. Et le chef du gouvernement est interpellé par plus de 100 maires et élus de Rouen et de Seine-Maritime. Dans une lettre ouverte, il lui demande d'engager le gouvernement et l'État pour répondre aux peurs, angoisses et questionnements nés de l'incendie de l'usine Lubrizol. Cette catastrophe n'est pas un incident local, c'est une catastrophe technologique, économique et écologique d'ampleur nationale qui doit être traitée comme telle, écrivent les élus. Ils demandent de la transparence, la mise en place d'un registre de suivi médical, la reconnaissance de l'état de catastrophe technologique et la réparation rapide des dommages causés à l'environnement. Nicolas Mayer-Rossignol, conseiller municipal socialiste de Rouen, ancien président de la région, est à l'initiative de cette lettre au Premier ministre. Il explique le sens de cette démarche.
Qu'il y ait un temps nécessaire, technique, pour des choses qui demandent du temps, c'est parfaitement compréhensible. Il faut essayer d'être mesuré et d'être responsable. Moi, j'essaie d'être responsable. Mais en revanche, la transparence, comme l'a dit le Premier ministre, elle doit être totale sur les éléments qui sont portés à la connaissance de nos concitoyens. Et il faut aussi être pédagogue, il faut expliquer. Si vous mettez une liste que personne ne comprend, ça ne va juste inquiéter les gens. La première liste qu'avait mis la préfecture sur son site, elle était incompréhensible. Et je suis moi-même scientifique et industriel de formation. Donc ça veut dire que c'était à la limite encore plus anxiogène. Il faut expliquer clairement les choses. On ne demande pas des choses très compliquées. On demande de la transparence, on demande un suivi médical rigoureux. On demande que les assurances puissent être activées et on demande que les dédommagements soient mis en place. Vous savez, il y a quelque chose dont personne ne parle. C'est que tout ça va avoir des conséquences de long terme sur l'attractivité, sur l'image du territoire. C'est quand même pas une très bonne image pour ce territoire. Donc les gens en ont conscience ici. Les Rouennais, ils n'ont pas vocation à Rouen, c'est pas la poubelle de la France. Donc c'est un événement, un accident d'envergure qui n'est pas locale, d'envergure nationale.
Nicolas Mayer-Rossignol, joint par Pierre Neveu. Le groupe parlementaire de la France Insoumise dénonce l'interpellation de sa vice-présidente Mathilde Panot en Algérie. La députée du Val-de-Marne s'était rendue dans le pays pour, selon ses mots, rencontrer des acteurs et actrices du mouvement populaire. Elle a été interpellée à Béjaïa, à 220 km à l'est d'Alger, et ramenée sous escorte dans la capitale. Le groupe des Insoumis déplore l'interruption forcée de son programme de rencontre. Ce soir, Mathilde Panot Albano va pouvoir rentrer en France après l'intervention du chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Demain jeudi, le temps sera variable avec des éclaircies plus larges l'après-midi, sauf sur la Bretagne où les pluies seront de retour en fin de journée. Les températures baissent, il y aura des gelées demain matin en Champagne et en région centre. L'après-midi, il fera 12 à 19 degrés sur la moitié nord, 18 à 24 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.